suis donc prof à la fac de Lille et j'ai quitté mes fonctions de chef de service il y a un an et je suis maintenant pédopsychiatre consultant au CHU de Lille. Et donc voilà le secteur, moi j'ai eu de la chance parce que je suis tombé dedans juste quand ça a commencé à bouillir la marmite, hein. C'était très bien. Je fais ma médecine et je m'en kikine parce que je trouve que les médecins qui m'apprennent le métier sont vraiment pas très sympas, ils sont très hautains et loin des patients, quoi. Donc c'est pas du tout ça que je cherche. Puis je fais un stage en psychiatrie et là je découvre un type vraiment qui est avec les patients, bon, mais en même temps il est dans un service où c'est l'asile pur et dur, quoi. Je raconte souvent l'anecdote qui permet d'illustrer un peu. Je visite un des pavillons dans lequel il passe de temps en temps pour voir comment ça va. Et il y a des patients attachés au radiateur, d'autres attachés dans leur plumard, qui s'automutilent, etc. Enfin, le truc, la cour des miracles, terrible. Et la surveillante, la cadre, se met au garde à vous, on dit « Tout va bien, docteur. » Premier contact avec l'asile. Et le médecin en question, avec quelques infirmiers, avait la farouche intention de changer ça parce qu'il ne pouvait pas supporter non plus de voir ça lui-même. Donc je suis tombé à mon stage d'externe en 1973, au moment où il commençait la psychiatrie de secteur. Alors voilà, après je suis resté tout le temps. Et donc j'ai rencontré le secteur en train de se fabriquer, sous mes yeux, avec ma participation. Donc évidemment, pour moi, c'est une aventure incroyable. Alors ça s'est fait de façon, on pourrait dire, double. Il y a un double mouvement. Il y avait le mouvement qu'un certain nombre de mes collègues ont suivi en France, qui consistait à s'installer dans le secteur dont on avait la responsabilité, c'est-à-dire un secteur géodémographique. Bon, ben voilà, moi c'était sur Angers, donc il y avait Trélazet, Angers, etc. Il y a un certain nombre de villes à la ville et à la campagne. Donc moi j'étais plus responsable de Trélazet plutôt. Donc on va s'installer à Trélazet, on fait un CMP, ce qu'on appelle un CMP. À l'époque, ça s'appelait dispensaire d'hygiène mentale. Ça a changé, les appellations. Donc on essaie de s'installer pour voir les gens en consultation et essayer de traiter avec eux la question de leur souffrance psychique, on pourrait dire, avant même qu'il y ait besoin, un jour, s'il y en avait besoin, d'hospitalisation. Donc ça, c'est une démarche très intéressante. Et en même temps, dans ce service-là, les gens étaient persuadés que si on voulait que ça soit cohérent, et que ça soit efficace sur le plan symbolique et concret, il fallait non seulement s'installer en ville pour y faire ce travail de consultation dans la cité, comme disait Bonafé, utiliser le potentiel soignant contenu dans le peuple, disait-il, notre poète psychiatre, mais il fallait aussi transformer l'asile. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on a vu les gens s'installer dans le secteur, faire leur boulot en extra-hospitalier, mais laisser tomber l'asile. Donc là, moi je pense que c'est une démarche du secteur qui est tout à fait cohérente. Si on veut être dans la cité et dire bon, on va changer le style de psychiatrie, il ne faut pas qu'on ait aussi derrière nous des pratiques asilaires. Donc on a aussi changé l'asile. Et alors on s'est servi de la méthode qui avait présidé à la naissance du secteur, c'est-à-dire la psychothérapie institutionnelle. Puisque les deux, quand ça s'est créé à Saint-Alban, étaient liés de façon très 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 serrée. Hein. C'est parce que Toscaillès et Bonafé à Saint-Alban, pendant la Deuxième Guerre mondiale, disent aux patients qui sont hospitalisés, bah écoutez, on n'a plus à bouffer, puis bon, vous avez l'air assez valide, allez donc filer un coup de main dans les fermes du coin parce que les hommes sont partis à la guerre ou au STO, qu'ils ont constaté de façon très scientifique, hein, on pourrait dire médicale, que ces gens-là, quand ils revenaient, non seulement ils ramenaient des patates et les gens ne mourraient pas de faim, donc ça, c'était pas mal. Il n'y a eu aucun mort de faim pendant la guerre à Saint-Alban, donc quand même. Et puis d'autre part, ils allaient mieux sur le plan psychique. Le fait qu'ils soient insérés dans la vie sociale du coin. Alors ça, c'est un élément essentiel qui leur a fait penser que, plutôt que de continuer la logique asilaire antérieure, vous avez un problème, bon, essayez de vous débrouiller, puis quand ça ira trop mal, vous venez à l'asile, on va vous guérir. Tout le monde est persuadé que la guérison... c'est pas du tout au rendez-vous. Hein. Donc vous allez venir y mourir, en fait. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens oublient souvent que sur les 70 000 hospitalisés en psychiatrie en France, il y en a quand même 45 000 qui sont morts de faim. Donc je sais pas si... Hein. Donc les gens qui ont créé le secteur, ils avaient ça dans la pratique de tous les jours. Donc ils ont dit qu'il faut inverser la logique. Il ne faut pas faire venir les gens à l'asile, il faut aller, nous, dans la cité. Et donc on va y faire ce travail de prévention d'abord, et puis bon, quand il y a besoin, ben, on hospitalise, mais il n'y a pas besoin d'hospitaliser tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être soignés, et la suite l'a montré. 9 sur 10 ont besoin d'être suivis en ambulatoire, et de temps en temps, une hospitalisation, mais ce n'est pas du tout la réponse univoque. Donc c'est cette logique-là qui s'est inversée. Alors donc nous, on a repris ça, parce qu'évidemment, l'hôpital de Saint-Alban avait montré comment ils avaient changé l'ambiance à l'intérieur de l'hôpital. Ils avaient fait un club thérapeutique, ils avaient fait participer les patients à leur guérison, à leur traitement, etc. Donc, on appuie sur les principes de Freud et d'Hermann Simon, en gros. Et donc, c'est vrai que cette méthode-là, qui comprend, on va sur le secteur extra-hospitalier, mais on ne laisse pas tomber l'hôpital, c'est une logique qui m'a semblé très, très éthiquement défendable. Et donc, quand on a mis en place le secteur dans notre région, là, On a pratiqué comme ça. Ce qu'on oublie souvent quand on parle du secteur, on en parle maintenant d'une façon désinvolte, et moi ça me fout dans des colères noires, dire « oh, le secteur s'est dépassé », enfin les gens ne savent même pas de quoi ils parlent, de ce qui est dépassé, mais bon, le secteur s'est dépassé, parce qu'évidemment si on est dans un secrétariat et qu'on assiste à la scène suivante, téléphone sonne, « allô, je voudrais un rendez-vous pour mon enfant » ou je sais pas quoi, et puis que la première question que pose celui qui reçoit le coup de fil, c'est « Vous habitez où déjà ?»« Ah, pas de chance, c'est pas de mon secteur. » Alors si c'est ça le secteur, c'est pas ça le secteur. Le secteur, c'est, en fait, les gens oubliés, le fondamental du secteur, c'est la traduction en langage administratif du dispositif qu'on doit mettre en place pour assurer la continuité des soins. D'un certain point de vue, sur le plan de la logique structurale, la continuité des soins, c'est la condition de possibilité pour tenir compte du transfert. Donc la leçon freudienne est contenue dans la psychiatrie de secteur. Ça, c'est vraiment très important. Les gens ont complètement oublié ce truc-là. Maintenant, on est venu à un nouveau style de secteur que j'appelle symptomatique. C'est-à-dire que c'est plus du tout cette logique de l'accueil. Quelle que soit votre pathologie, on va essayer de voir comment on peut vous filer un coup de main pour diminuer votre souffrance psychique. C'est, on vient me voir parce que je suis spécialiste du TADA, ou le spécialiste de... tel truc, de la dépression en rapport avec la luxation de la rotule gauche. Mais moi, c'est à droite. Ah ben, c'est pas de chance, moi, c'est la rotule gauche. Donc, il y a une logique de la sectorisation symptomatique qui prévaut maintenant et qui fiche en l'air, évidemment, la doctrine de secteur qui était basée sur l'inverse. C'est-à-dire le décloisonnement, la continuité des soins. C'est les mêmes soignants qui s'occupent de lui quand il est hospitalisé qu'après, quand il sort et qu'on va continuer à assurer avec lui la fonction phorique. C'est quelque chose qui est avec une logique absolument formidable sur le plan du soin. Donc pour moi, le secteur, c'est ça, essentiellement. Et je trouve que moi, j'ai milité pour le secteur depuis le début de ma carrière professionnelle. Je continue à penser que c'est la plus grande révolution psychiatrique du XXe siècle. Et je suis absolument scandalisé que des gens avec une désinvolture criminelle laissent tomber ce service de cette organisation de la psychiatrie qui était géniale. Donc il faudrait que ça continue à vivre. C'est-à-dire que les gens comprennent pourquoi le secteur est si important. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas compris la leçon du secteur. J'étais dans un syndicat de psychiatres, par exemple, au temps de ma jeunesse. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des grands discours sur le secteur, mais quand je parlais avec eux de comment ça se passait dans leur service, etc., ils ne faisaient pas du secteur. Ils allaient faire des consultations au dispensaire, puis ils revenaient soigner les gens à l'hôpital. Mais pour eux, il n'y avait pas du tout de continuité entre tous ces trucs-là. C'était deux types de pratiques. Il faut faire du secteur, sous-entendu, il faut faire de l'extra-hospitalier. Mais faire du secteur, ce n'est pas ça du tout. C'est je suis quelqu'un au CMP de Trélazé parce qu'il est très très mal, et puis là, il va tellement mal que j'ai besoin de l'hospitaliser, mais quand il va être hospitalisé, je vais continuer à m'en occuper. Pas tout seul, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais il va pouvoir compter sur moi, même s'il est hospitalisé. Et quand il va mieux, il sort et je continue à m'en occuper à nouveau. Parce que la maladie mentale n'est pas une maladie de l'urgence seulement, contrairement à ce qu'on nous fait à croire aujourd'hui. On essaie de nous dire, la psychiatrie quand même, ça pourrait être réduit aux urgences, le reste dans le médico-social. Qu'est-ce qu'il y a besoin de psychiatre dans ces histoires, ça va pas, non? Bon, ça coûte cher, bon, on ne nous le dit pas trop, mais en fait c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est que c'est comme si on faisait une psychothérapie avec un type quand on va très mal, et puis quand on va un peu moins mal, le psychothérapeute disait, écoutez, maintenant, vous allez mieux, donc je vais arrêter moi de m'occuper de vous, je vais vous confier à l'assistante sociale de votre secteur. Vous imaginez la gueule que vous faites quand le psychothérapeute vous dit ça? C'est la même logique qui prévaut là. Et je trouve que c'est très dommage qu'on ait oublié cette grande leçon quand même de la psychiatrie du XXe siècle. Travailler en CMP, dans mon esprit, c'est être là... près de chez les gens. Alors c'est la publicité pour le Crédit Agricole, mais en fait c'est l'inverse. C'est le Crédit Agricole qui a piqué la publicité du secteur. Hein, bon. C'est être là près de chez les gens pour que s'ils ont une souffrance psychique qui devient un peu pesante pour eux, enfants, adultes, enfin toutes les cas de figure sont possibles, je puisse aller voir quelqu'un sans que ça déclenche une procédure de type ambulance-urgence. Parce que j'ai attendu trop longtemps et que ça décompense de façon tellement spectaculaire que je ne peux plus rester, il faut que j'aille. Donc avant que ça arrive, ça, il y a le CMP dans mon coin, j'ai entendu dire qu'un tel y avait été, que c'était plutôt sympa, l'autre il n'est pas très content, mais enfin lui il râle tout le temps, bon, enfin voilà. Parce que les bruits que les gens répandent autour de leurs expériences, j'y vais, je rencontre un psychiatre. Et le psychiatre que je rencontre, ou le psychologue, il y a des CMP où les psychologues reçoivent aussi en première intention, va m'accueillir pour essayer de voir cette souffrance psychique dont je parle, comment est-ce qu'il pourrait y faire quelque chose. Alors soit tout seul, si c'est une souffrance psychique de type névrotique classique, hein, voilà, soit avec ses collègues, s'il pense que quand même, il y a un certain nombre d'autres éléments de ma souffrance psychique qui montrent qu'il y a besoin d'être étayé, aidé sur tel et tel point. Par exemple, le bureau de psychomote, on dit à tel enfant qu'il a une difficulté, genre TADA, par exemple, bon ben, voilà, je vais vous voir régulièrement, mais ça serait bien que le psychomote vous reçoive aussi. Donc, on se fait aider en fonction du diagnostic qu'on porte sur l'état de l'enfant et sa souffrance psychique, d'où elle vient, comment est-ce qu'on peut y répondre. Et donc, on voit bien que le CMP va disposer d'un certain nombre de compétences dans ce CMP près de chez les gens, et que dans la plupart des cas, ça répond aux nécessités qui se font jour à l'occasion de la souffrance psychique de l'enfant ou de l'adulte. Et puis, de temps en temps, comme ce CMP a dans son service une hospitalisation de jour pour les enfants autistes, une hospitalisation à temps complet pour les décompensations d'adolescents qui vont mal, d'anorexie, etc. Bon. Ben, le type qui voit au CMP le patient qui est anorexique, il essaie de le voir pour approfondir le diagnostic, comprendre ce qui se passe, puis à un moment il dit quand même là on ne va pas y arriver en ambulatoire, donc je vais en parler à mes copains qui s'occupent de l'hospitalisation et on va l'hospitaliser dans le service d'hospitalisation. La logique voudrait que celui qui s'en occupe dans le CMP continue à s'en occuper dans le service. Alors bon, il y a des tas de problèmes pratiques et concrets qui font que c'est pas toujours aussi facile que nécessaire, mais même si on va le voir une fois par semaine, l'enfant qu'on a suivi au CMP, puis qu'on va voir à l'hospitalisation, pour lui c'est extrêmement important. Donc c'est cette logique-là. Le CMP, on dit souvent, c'est le pivot du secteur, c'est-à-dire que les gens viennent, et puis en fonction de ce qui se passe, on va les adresser à tel ou tel membre de notre équipe, parce qu'on pense que... Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que le CMP pivot du secteur, c'est le lieu où on est en lien avec les partenaires, avec le généraliste, avec le pédiatre, avec les travailleurs sociaux, avec l'école, avec tout un tas de services, la PJJ, enfin bon, etc. Et donc en fait, quand on fait une réunion de travail après un diagnostic pour un enfant, c'est souvent qu'on dit, bon, ça serait bien qu'on réunisse un peu la constellation de cet enfant-là. Il est suivi par telle et telle personne. Est-ce que vous êtes d'accord, chers parents, qu'on voit pour votre enfant telle et telle personne? Les parents ne demandent pas mieux en général que ça communique. Hein. Bon, alors voilà, on fait une réunion de travail pour essayer de voir comment on se répartit les différentes tâches à accomplir pour cet enfant. Pour un enfant... Faut souvent soutenir l'instit, parce que l'instit tout seul avec un enfant qui va mal, il est un peu perdu, et puis surtout que maintenant les RAZ disparaissent malheureusement, ben voilà, il l'instit un peu tout seul, hein, et il a beau demander à son inspecteur, c'est rare que l'inspecteur vienne lui filer un coup de main dans la classe, hein. Donc il est très content quand on lui dit, ben on se verra pendant le repas, on passera une demi-heure pour essayer de discuter de cet enfant-là, avec les parents si vous voulez, ou sans les parents, comme les parents le souhaitent. Et voilà, on établit des liens de travail avec les différents partenaires. Et c'est souvent centré, ça, plutôt sur le CMP, qui est le lieu où les gens vivent. Hein. Ils sont dans telle ville ou dans tel quartier. Il y a le CMP qui est là, on se retrouve au CMP, ou on se retrouve à l'école. C'est donc la base, vous voyez, de l'ensemble du travail de secteur. Et je trouve que de le penser comme ça, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, ça donne du sens à ce qu'on fait pour un enfant. On réfère le sens à ce qu'on y fait à partir du CMP. Quand il y a besoin d'une hospitalisation, ben, c'est quand même par le CMP que ça vient. Alors le système actuel, c'est ça qui est pénible, c'est qu'on voit bien, puisque les secteurs sont quand même en difficulté sur le plan des moyens, vous avez remarqué sûrement que dans tous les secteurs avec lesquels vous travaillez, quand on vous dit c'est combien d'attente pour la liste d'attente, ça varie entre 6 mois et 18 mois, quoi, en gros. Hein. Quand on vous dit je peux vous voir demain, vous dites, attendez, il y a un problème là, dans votre service. Donc c'est dingue. Donc on perd en efficacité parce que les gens doivent attendre trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe comme ils attendent 6 mois ou 18 mois? Entre-temps, le gamin décompense. Et où est-ce qu'on le retrouve? De toute façon, aux urgences. Donc il rentre dans les services par les urgences, c'est à mon avis la plus mauvaise manière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'urgence, bien sûr, il faut qu'il y ait des urgences. Il y a des fois des enfants qui décompensent, ce n'était pas prévisible complètement à l'avance, donc il faut bien qu'il y ait des urgences. Mais de faire que le système entier s'oriente maintenant vers les urgences pour rentrer dans les équipes de soins, alors qu'on avait un système qui faisait l'inverse, qui était quand même beaucoup plus efficace sur le plan humain, c'est vraiment invraisemblable que les pouvoirs politiques aient laissé tomber ce truc-là et nous aient laissé tomber au milieu du gué, hein, sans qu'ils se rendent compte de quoi que ce soit d'ailleurs, parce que la plupart ne savent même pas de quoi ils parlent quand ils parlent du secteur. Hein, voilà. Donc je suis très en colère, moi, après les politiques qui ne nous ont pas soutenus sur cette politique géniale de la psychiatrie de secteur. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une bande d'intellectuels menée par Foucault, Guattari, Deleuze, enfin toutes ces grandes figures des intellectuels des années 70, qui étaient très intéressés par la folie, la psychiatrie, etc., et qui ont produit des réflexions très très puissantes qui nous ont aidés à modifier les choses, parce que dans le contexte sociétal de l'époque, il y avait toute une réflexion sur comment est-ce qu'on peut être plus humain avec ces gens qui sont en grande difficulté, les prisonniers et les fous. Hein, ça, Foucault avait beaucoup insisté sur ces aspects-là. Les enfants aussi, parce que ça faisait partie des aliénations très très fortes. Alors il y a eu une sorte de mouvement comme ça qui s'est déclenché avec tout un tas d'étudiants qui à partir de 68 se sont bien fait médecine psycho de façon exponentielle par rapport à avant. Et donc il y a eu tout un vaste réservoir d'énergie humaine et humanisante qui s'est déployé là et qui a fait que ça a changé parce qu'on était un peu les porte-parole de ces mouvements-là dans les services dans lesquels on travaillait. On se réunissait en plus souvent entre nous, donc il y avait un effet de groupe qui a pris une très grande ampleur. Puis on a vu progressivement que, en fait, s'occuper des fous, c'est quand même fatigant. Hein. Puis penser au transfert quand on rentre chez soi, et qu'on est à l'apéro avec les enfants, avec des copains, puis que les copains, au bout d'un moment, disent hey, « Hé, où est-ce que t'es ?» Et puis qu'en fait, on est toujours dans notre transfert avec tel enfant qu'on vient de voir avant de venir. Puis fatigant ça quand même, hein. Donc arrêtez-moi ça, le transfert, tout ça, ça me fatigue. Maintenant on va faire des trucs sur les comportements, vous savez il y a des médicaments très bien, vous savez docteur, hein. Alors voilà, vous prescrivez ça pour les enfants agités, Ritaline, hein, ce qui fait que d'ailleurs 20% d'une classe d'âge dans certains états des États-Unis par exemple sont sous Ritaline quand même, au Brésil aussi, enfin, etc. Bon, donc voilà, c'est une espèce de simplification de la démarche, mais moi je compte sur l'humanité de mes collègues. Je pense qu'il y a beaucoup de mes jeunes collègues qui trouvent que quand même ce qu'on leur apprend sur ce plan-là, ce n'est pas au niveau où ils attendent. Et je crois qu'il va y avoir sûrement un retour de balancier, et les gens vont se rendre compte que cette médecine-là qu'on fait actuellement, si ça continue comme ça, on va devenir des vétérinaires. C'est-à-dire qu'on se passe de la parole, on se passe de l'intersubjectivité. On fait comme s'il y avait tel symptôme qui nécessite tel traitement, et après moi je ne rentre pas en relation avec ces gens-là, parce qu'ils sont fous, donc de toute façon ce n'est pas avec moi. Hein. Bon. Donc il y a une sorte on pourrait dire, d'aseptisation de la relation. Et ça, je pense que aussi bien les patients, leurs familles, que les professionnels ne vont pas se contenter de relations comme ça. Donc on voit bien, il y a tout un tas de jeunes, par exemple, qui me demandent de faire avec eux des groupes balines, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'ils trouvent que c'est trop sec, quoi. Il faut que l'empathie soit un peu humide, comme disent les scientifiques. Hein. Et à ce moment-là, ça redémarre. Là, parce que à ce moment-là, tous les concepts de la psychopathologie transférentielle sont utiles pour ça. Hein. Mais tant qu'on dit ben, il suffit de traiter les symptômes et le reste ne m'intéresse pas. J'ai suivi pendant 10 ans un autiste d'Asperger là, à Lille. Comme je partais, je lui dis ben, quand même que vous alliez voir quelqu'un pour la suite. Hein. Ah ben mon père connaît quelqu'un, alors voilà, j'ai eu rendez-vous. Il est allé chez le type, qui lui a dit bon alors qu'est-ce que vous prenez comme traitement? Alors ben, ça. Et puis le jeune homme se disait bon ben je lui fais son traitement, ça a l'air d'être important pour lui, donc je lui dis mon traitement, puis après on va poser. Donc alors voilà, le samedi soir, quand je sors, le type lui dit attendez, je vous arrête tout de suite, moi vous savez, je suis chimiothérapeute, hein. Tout ce qui est psy, etc. Allez voir un psychothérapeute, parce que c'est pas mon... Moi, j'y connais rien. Hein. En plus, c'est une position un peu modeste, en apparence. Moi, j'y connais rien, vous savez. Hein. Est-ce qu'on veut une psychiatrie comme ça? Il faut que les psychanalystes fassent leur boulot, c'est-à-dire qu'ils commencent par balayer devant leur porte, et qu'un certain nombre d'entre eux se rendent compte qu'ils ont quand même un peu déconné de façon désinvolte avec beaucoup d'enfants qu'ils ont reçus comme si l'indication de cure-type était posée de façon automatique. Et à mon avis, c'est là que le bât blesse. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents et d'adultes d'ailleurs, hein, pour lesquels même Bleuler, qui n'était pas un psychanalyste farouche, hein, avait compris qu'il fallait les accueillir dans une institution parce que la cure-type, ça ne suffisait pas. Hein. Bon, donc aujourd'hui, quand même, avec un siècle de plus de recul, d'expérience, quand même, ça me paraît assez important que les psychanalystes se rendent compte que pour un schizophrène ou pour un autiste, ce n'est pas la cure-type qui convient. Hein, donc évidemment, tout de suite, il y a le chaînon manquant qui se pose. Quelle est la nature de l'institution qu'il faut pour ces enfants-là? C'est là que Tosquelles propose, dans le cadre du secteur et de la psychothérapie institutionnelle, la notion de constellation transférentielle. C'est-à-dire que l'autiste, il donne un petit bout de son transfert à l'un, puis un petit bout à l'autre, etc. Et si on ne se met pas ensemble autour de lui, on croit toujours que c'est avec nous que ça fait quelque chose. En général, on croit d'ailleurs que c'est avec nous qu'il s'améliore. Et on croit que c'est avec l'autre que... Il y a
Que
quelque
ça
chose
va
qui
pas.
cloche, que ça va pas. Hein. Donc voilà, en plus, les clivages décrits par Stanton et Schwartz à Chestnut Lodge s'appliquent là aussi. Donc vous voyez bien, le travail institutionnel, c'est nécessaire pour que le secteur soit vivant et soit pas un organisme technocratique, mais devienne le dispositif dans lequel la continuité des soins est assurée. Continuité des soins égale transfert. Hein, voilà, moi je le vois comme ça. Donc les psychanalystes, il faut qu'ils réfléchissent sur quelle est la nature du transfert que je vais pouvoir instaurer avec cet enfant-là, que cet enfant-là va pouvoir instaurer avec moi, parce que ça, c'est un double transfert. Hein. Et tant qu'on ne réfléchit pas à ça, on peut prétendre être psychanalyste, mais si on s'occupe des autistes et des schizophrènes en prétendant être psychanalyste de la cure-type, ça colle pas. Et à mon avis, c'est ça qu'on paye. Et moi, ce qui me fait du mal, c'est que je paye pour tout un tas de gens que je connais qui ont fait ça. Hein, j'aurais mieux aimé que ça soit eux qui payent. D'ailleurs, la parution récente des correspondances entre Bleuler et Freud montre bien qu'ils étaient très en lien pendant que Bleuler essayait d'absorber au Burgos de Zurich la psychanalyse pour en faire quelque chose pour traiter les schizophrènes. Et à partir du moment où Freud a dit écoutez, la schizophrénie, c'est quand même autre chose, est-ce qu'il y a du transfert ou pas en psychose, enfin, toutes ces questions que Freud a posées jusqu'à la fin de sa vie. Ben, Bleuler s'est un peu détaché. Hein. Il n'y a pas que les conflits avec Jung, il y a aussi tout un tas de choses entre Bleuler et Freud. Et les dernières correspondances qui viennent de paraître sont très intéressantes pour comprendre ça. Hein. Donc je crois que tu as raison, il y a eu quelque chose assez tôt dans l'histoire de la psychanalyse qui a mis certains vers la névrose avec Freud, et puis d'autres avec la psychose, mais alors sans Freud, de fait. Donc c'est vrai que moi j'ai l'impression que Tosquelles a renoué un peu les chemins, hein, puisque par Ferenczi, Emminder, etc., il a ramené la question de la nécessité de la psychanalyse, non pas pour soigner sur le mode de la cure-type, mais pour comprendre la qualité du transfert particulier que le schizophrène ou l'autiste instaure sur le monde. Et ça c'est à mon avis là qu'il y a une rupture épistémologique, mais en même temps une retrouvaille, hein, sur le plan des écoles de psychanalyse. Il faut que les psychanalystes intègrent cette leçon, sinon ils continuent à faire des trucs qui sont insupportables pour les parents, par exemple, d'enfants autistes. Hein. Et moi, je suis à fond pour la communication avec toutes ces grandes spécialités scientifiques. Moi-même, je fais des consultations conjointes avec le prof de neuropédiatrie de Lille, Louis Vallée, et on fait des trucs justement pour essayer d'articuler neurosciences et psychopathologie transférentielle. Hein. On continue à le faire, ça, bien que je sois... plus dans le service directement, je continue à faire ces consultations conjointes parce que je pense que c'est vraiment une des clés possibles pour sortir de la crise actuelle qui est une crise simplificatrice. Il faut qu'on renoue avec la complexité et pas de façon abstraite, de façon concrète. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'on reçoit l'enfant avec le neuropédiatre et le pédopsychiatre et qu'ensemble, on les aide à fabriquer la théorie de la maladie de leur enfant. Voilà l'enjeu, hein, je crois. Et dans cette théorie-là, évidemment que la psychanalyse a une place tout à fait importante. Et notamment pour comprendre du côté de ceux qui accueillent la souffrance de l'enfant, comment on peut se débrouiller pour en faire quelque chose qui ne se cristallise pas, mais qui se transforme. Hein, c'est quand même toutes les avancées post-kléniennes qui sont fondamentales. Pourquoi foutre tout ça dehors? Parce que, je sais pas quoi, un député du Nord-Pas-de-Calais a décidé qu'il faut faire passer une loi pour interdire la psychanalyse dans l'autisme. Hein, ben vraiment. Moi, je t'ai dit, les jeunes Jedi que je vois dans mon parcours français, parce que je visite beaucoup d'équipes qui me demandent de venir les aider à traiter les cas difficiles avec lesquels ils sont embarrassés, donc je rencontre vraiment beaucoup de gens, je suis très étonné de voir l'engouement pour une réflexion de ce type-là, dont ils ne disposent pas dans les lieux où ils sont. C'est très rassurant, c'est à mon avis ça qui va permettre que ça rebondisse. C'est-à-dire que l'esprit humain est ainsi fait qu'il cherche du sens à ce qu'il fait. Hein, donc on lui dit, cherchez pas le sens, vous traitez le symptôme et après vous rentrez chez vous, vous êtes tranquille. Le mec il dit, d'accord, mais moi je cherche quand même le sens. Hein, vous avez beau me le dire qu'il ne faut pas, moi je le cherche. Et de toute façon, je pense que tout un tas de jeunes vont dans cette direction-là. Donc ils vont de toute façon nous rencontrer, nous ou nos successeurs. Ils vont revenir chercher dans nos livres qu'on a écrits. Et alors qu'est-ce que c'est que le concept de transfert, je ne sais pas quoi, avec l'autiste, etc. On nous dit que ça n'existe pas, mais quand même, moi j'ai l'impression que cet autiste-là, quand je le vois, il vient me voir vraiment. Bon, donc les gens se posent des questions. Donc à mon avis, il y a ça. Mais à côté de ça, il y a le contexte sociétal, qui lui est quand même pas vraiment emballant. Hein, Trump vient d'être élu aux États-Unis. En France, on a vu ce que ça donne la primaire et les risques que ça dérape plutôt du côté vers la droite, par exemple. Hein, bon, voilà, conservatisme. Donc, il y a un problème qui se pose, dont on ne parle pas assez souvent, c'est que pour pouvoir faire un travail psychothérapeutique, il faut mettre en œuvre quelque chose qui facilite la liberté de circulation de la parole et de la pensée entre le patient et le thérapeute. Cette liberté de circulation de la pensée, de la parole, ça ne peut marcher vraiment que si on est dans un contexte démocratique, dans lequel, sur le plan de la société elle-même, circule la liberté de penser et de la parole. Actuellement, on est dans une démocratie médiatique. C'est la post-démocratie. Les gens croient qu'ils sont libres de penser, mais ils pensent que le poste leur dit de penser, hein, en gros. Donc on est quand même dans une société dans laquelle l'importance accordée à l'image est beaucoup plus grande qu'à ce que fait la personne qui présente son image à la télé ou je ne sais pas où. Et évidemment, le risque est grand d'aller vers ce que j'appelle une république des faux selfs. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'image qu'on donne de soi, mais que ça soit sans aucun rapport avec ce qu'on est ou ce qu'on fait, tout le monde s'en fout. Alors voilà, on voit bien que si on va plutôt vers ça, la question de la liberté de circulation de pensée et de parler est mise en péril par le fait que c'est l'image qui compte et pas ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc voilà, c'est pour ça que j'articule souvent démocratie et psychothérapie, parce qu'il me semble que les deux sont très liés l'un à l'autre. D'ailleurs, on a vu dans les pays où il y a eu des tyrannies, hein, que c'était très compliqué la question de continuer la psychothérapie. Hein. Bon, donc je pense que c'est ça le problème. Donc d'un côté, il y a un espoir, parce qu'à mon avis, les plus jeunes ont besoin de ça et ils s'en rendent compte et ils viennent chercher finalement auprès des gens qui peuvent l'incarner, ces choses-là. Et puis à côté de ça, il y a le contexte général par rapport à la psychiatrie, ce que tu disais tout à l'heure sur les gens, la folie, bon, ils en ont un peu marre, etc. Je change de trottoir quand je vois un type qui est barjot sur le même trottoir que moi. Il y a cette tendance-là qui consiste à augmenter l'aliénation sociale, augmenter la ségrégation. Je ne veux pas être en contact avec ces gens-là. Le discours d'Anthony, etc. Ils sont tous dangereux, ils vont me tuer, bon. Donc tout ça est un peu en balance, et comme d'habitude, dans des questions aussi complexes, on va bien voir comment ça s'articule, mais moi je suis pour continuer à militer pour défendre ces concepts fondamentaux, parce que je crois que c'est vraiment ça qui permet aux patients d'être moins mal dans leur appareil psychique personnel. Donc moi j'ai essayé de faire passer le message auprès des étudiants en médecine et des étudiants en psychiatrie, en pédopsychiatrie, mais j'ai fondé en plus un institut là, de formation à la psychothérapie psychanalytique des enfants à Lille, hein, qui fonctionne depuis 2009 sous forme d'un DU, avec des psychos, des médecins, des différents psys qui s'inscrivent et qui donc suivent un enseignement universitaire d'une part, puis d'autre part dans un centre de consultation psychothérapeutique expérimentale. On a trouvé ce nom-là pour pouvoir être agréé par l'ARS, c'était pas facile, donc c'est expérimental. Ils peuvent suivre des enfants jusqu'à 3 séances par semaine avec une supervision hebdomadaire. Hein, donc ces gens qui s'engagent dans ce cursus-là, il y en a déjà une vingtaine de formés, c'est des gens qui évidemment découvrent là le fait qu'il ne suffit pas de dire j'ai fait psychiatrie ou psychologie pour être psychothérapeute d'enfant. Hein, qu'évidemment il faut se confronter à qu'est-ce que c'est que le transfert, et qu'est-ce que j'en fais, comment je transforme, supervision, enfin groupe Balint et compagnie. Hein, donc voilà, moi je crois qu'il faut proposer des trucs comme ça en France, et je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits où j'ai compris que des gens essaient de se pencher là-dessus. Hein. Je pense qu'ici par exemple vous avez aussi un projet comme ça, je sais qu'il y en a dans un certain nombre d'autres endroits, donc je crois que c'est très important que les gens puissent assez facilement, entre guillemets, trouver des endroits où ils peuvent se former à ces choses-là. Parce qu'à ce moment-là, ceux-là deviennent un peu les garants d'une histoire qu'on continue, hein, et qui pourront transmettre à d'autres. Donc voilà. Donc la formation universitaire, bon, bah ça, si jamais la loi fait ce qu'elle passe, interdiction d'enseignement de la psychanalyse dans l'autisme, etc., ça va être très compliqué à l'université. Ça l'est déjà un peu, mais enfin, bon, ça va l'être encore plus. Mais si elle passe pas, il faut qu'on continue à enseigner à chaque fois que c'est possible la complexité des choses. Hein, moi, quand je fais le développement d'enfants aux 3 900 étudiants de première année de médecine à Lille, ben, je leur fais Freud. Hein. Et je ne dis pas toujours Freud, mais enfin, ça y va, hein. J'en profite. Hein. Bon. Donc voilà, il faut qu'on saisisse toutes les opportunités pour parler de ces découvertes fondamentales qui ont quand même révolutionné la pensée occidentale et donc mondiale. Hein. Donc voilà, moi, je crois que c'est invraisemblable que des gens pensent que tout ça, c'est pas de la culture et qu'il faut envoyer ça à la poubelle de l'histoire. Malheureusement, du côté des universitaires, il y en a assez peu qui sont praticiens de secteur. Donc c'est embêtant parce que quand même c'est la formation dans les services universitaires est très importante parce qu'il y a un niveau de rigueur attendu qui est quand même souhaitable. Mais c'est quand même embêtant que la plupart des services universitaires ne soient pas sectorisés. Hein. Moi personnellement, je revendiquais beaucoup le fait que les services universitaires soient sectorisés, sauf exception, peut-être que Paris c'est un peu particulier, mais dans les autres villes de France, il y a beaucoup de secteurs qui ne le sont pas, de services qui ne le sont pas, et c'est vraiment dommage parce que c'est le banc d'essai de notre formation. Donc il faut là. Donc si c'est pas possible parce que le service n'est pas sectorisé, qu'au moins on attende de l'universitaire qu'il ne soit pas contre le secteur, ce qui est quand même le minimum, puisque c'est quand même la loi hein, en France. La loi de 1989, le secteur est la modalité d'organisation de la psychiatrie en France. Donc on peut imaginer qu'il ne peut pas être contre. Bon, donc il l'enseigne. S'il ne le fait pas lui-même, il faut qu'il adresse les gens chez des gens qui le font, parce que c'est quand même la psychiatrie publique, c'est ça. Hein. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, la psychiatrie publique, on sait qu'il y a beaucoup de postes vacants. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Ça, je ne sais pas. Je ne voudrais pas redevenir à nouveau pessimiste. Je pense qu'il y a peut-être des choses à attendre de ce côté-là, une mobilisation des collègues du public, hein, quand même. Moi, par exemple, quand j'ai commencé la psychiatrie de secteur à Trélazé, j'étais très en lien avec les cabinets de généralistes qu'il y avait d'installer dans le secteur en question. Et bon, c'est très souvent qu'ils me téléphonaient en disant, je viens de voir tel patient, il est devant moi, est-ce que tu peux me passer un rendez-vous? Est-ce que quand même, il a des choses, moi je ne peux pas me débrouiller, est-ce que ça serait bien que tu le vois? Donc voilà, ben, je peux le voir demain après-midi au dispensaire. Donc c'était comme ça. Et évidemment, quand ça se passe comme ça, les gens, ils viennent. Quand on leur dit, allez voir le secteur. Les gens, comme c'est pas interhumain direct, ils sont dit qu'est-ce que c'est le secteur, je sais pas quoi. Là, c'était allô Pierre, est-ce que j'ai monsieur machin devant moi, est-ce que tu pourrais le voir, etc. Ça marche, ça. Hein, donc, moi, par exemple, en pédopsie, je fais ça avec les pédiatres très très souvent. Hein, les liens avec les pédiatres étaient très soutenus. Donc, je pense que c'est si on pense notre métier comme médecin de famille au sens strict, bah, évidemment, on est en lien avec les médecins de famille. Soit les généralistes, soit les pédiatres, hein, et nous-mêmes, on devient une sorte de, je sais pas, grand-père. Enfin, bon, ça, c'est dû à mon âge, mais il y a quelque chose comme une fonction un peu grand-paternelle, c'est-à-dire objet d'arrière-plan secondaire, quoi. Hein. Et donc, il y a beaucoup de transferts qui se sont déroulés de ce type-là, qui étaient très aidants pour les familles, c'est-à-dire qu'on n'était pas là en position d'être leurs parents en disant faites comme ci ou faites comme ça, mais. Ah bon, vous croyez que, bon, peut-être que, je sais pas quoi, enfin, poser des questions comme grand-père, ça permet de laisser à la famille son autorité familiale, mais en même temps de se faire aider de façon indirecte. Bon, voilà, c'est un peu ça, moi, c'est comme ça que je le pense sur le plan des relations avec les collègues, ça. Hein.